Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, la photo du monde agricole, c'est le recensement décennal. 100 000 exploitations agricoles de moins en 10 ans en France. Elles sont plus grandes, moins d'élevage. Les agriculteurs vieillissent, la part du bio triple en 10 ans. Nous reviendrons en détail sur cette enquête. Objectif, 20 millions de doses de rappel administrées d'ici à Noël. Olivier Véran ce matin à Lille, avec une nouvelle plutôt rassurante.
La dynamique épidémique n'est plus aussi violente que ce qu'elle était la semaine dernière, qu'il y a 2 semaines et qu'il y a 3 semaines, et qu'on se rapproche sans doute du pic de cette épidémie.
À Barneville-Carteret, dans la Manche, histoire singulière, plus de médecins jusqu'à nouvel ordre. Les généralistes de la maison médicale ont tous le Covid. Un geste de plus pour faire la lumière sur la guerre d'Algérie. Les archives sur les enquêtes judiciaires vont être ouvertes. En Nouvelle-Calédonie, référendum dimanche, la Chine, qui étend son influence dans le Pacifique, regarde cela de très près. La promesse de Xavier Bertrand à Valérie Pécresse, s'engager à fond pour la faire gagner. La candidate sur les terres ce matin de son concurrent lors de la primaire. Les plateformes de vidéos type Netflix vont financer séries, pièces et films français. Accord avec le CSA, 250 à 300 millions d'euros par an. Le français Antoine Dupont, sacré meilleur joueur de rugby au monde cette année. Et puis la météo, alerte aux pluies et crues, toujours dans les Pyrénées. Notre question à 13h30, les Miss France, concours populaire et fédérateur ou ringard et reposant sur une conception rétrograde de la féminité? J'attends vos questions et interventions dès maintenant, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Dans C'est une chanson, nous écouterons du Alain Souchon. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
On a des choses à reconstruire avec l'Algérie. Elles ne pourront se reconstruire que sur la vérité. Propos de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ce matin. Les archives historiques sont dans son rayon d'action. Le 60e anniversaire des accords d'Évian pour mettre fin à la guerre tomberont en fin de campagne présidentielle cet anniversaire. À 3 mois de l'échéance, le gouvernement ouvre un peu plus les archives. Celles sur les enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie vont être accessibles. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Question, quelles affaires méconnues pourraient-elles révéler?
Alors, l'annonce de ce matin s'inscrit déjà dans la droite ligne de la politique de réconciliation mémorielle entre Paris et Alger, initiée par le chef de l'État. En mars dernier, Emmanuel Macron avait parlé d'une simplification de l'accès aux archives tenues secrètes depuis 60 ans. Et sous la pression des historiens, la déclassification a été étendue jusqu'à l'année 1970, alors que jusque-là, elle ne pouvait pas s'appliquer au-delà de 1954, à savoir le début de la guerre. De quelles archives parle-t-on exactement? C'est la question que j'ai posée à Naoufel Brahimi El-Mili. Il est l'auteur de France-Algérie, 60 ans d'histoire secrète, qui sortira en février prochain chez Fayard.
La logique voudrait que ce soit les archives liées aux enquêtes de l'armée française. C'est parce que cette période-là, qui est connue sous le nom de la bataille d'Alger, c'est l'armée française qui avait tous les pouvoirs. Donc la logique voudrait que ce soit ces archives-là. Maintenant, il reste à savoir si l'armée a reproduit fidèlement les archives ou alors il y a des choses qui ont été occultées. Je cite juste un exemple. Il y a ce qu'on appelait les crevettes Bijard. Le colonel Bijard menait des prisonniers ou des présumés coupables dans un hélicoptère. Ils étaient jetés à la mer. Est-ce que ces actions-là ont fait l'objet de procès-verbaux ou pas?
Interrogé sur la possibilité que l'ouverture des archives aboutisse à la confirmation d'actes de torture commis par l'armée française, la ministre de la Culture a répondu que c'était dans l'intérêt du pays que de le reconnaître.
Et les relations sont tendues entre France et Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a tenté de relancer le dialogue avant-hier. Il était à Alger. Parmi les sujets de dissension, histoire et mémoire, justement, depuis qu'Emmanuel Macron a accusé le système politico-militaire à Alger d'entretenir une rente mémorielle. En Nouvelle-Calédonie, c'est en 1853 qu'a commencé la colonisation française. C'est aujourd'hui une collectivité d'outre-mer. Et dimanche, se tient un 3e référendum sur l'indépendance, après 2 non en 2018 et 2020, à 53% en 2020. Le camp indépendantiste appelle à ne pas participer au scrutin, estimant que l'épidémie de Covid, qui a majoritairement touché les Kanaks, n'avait pas permis la tenue d'une campagne équitable. Le taux de participation est donc un des enjeux du week-end. Autre enjeu géopolitique, celui-ci. La Chine, qui cherche à étendre son influence dans le Pacifique, suit le scrutin de très près. L'envoyée spéciale de France Inter, Sandrine Etoa-Andegue, l'a constaté lors de ses derniers jours de campagne.
Si la Nouvelle-Calédonie, caillou en position stratégique dans le Pacifique, qui possède un quart des réserves mondiales de nickel et aux ressources maritimes colossales, devient indépendante, elle se fera dévorer par ce que le député centriste Philippe Gomès appelle l'ogre chinois.
Je sais qu'une part du mouvement indépendantiste est assez réceptif aux avances chinoises. Avec un raisonnement assez simple, la France, elle nous a colonisés, la Chine jamais. J'ai juste envie de le dire, mais attends encore un peu, tu vas voir.
Plusieurs spécialistes citent en exemple la Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine, dont les richesses, or, nickel, argent, bauxite, ont été captées par la Chine, selon Bastien Van Den Dijk, expert en géostratégie.
Il n'y a aucun scénario possible dans lequel une Nouvelle-Calédonie indépendante ne devienne pas un satellite chinois. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la Chine serait la seule à pouvoir inonder la Calédonie d'argent, un temps, pour développer les infrastructures, pour capter le nickel. Et il est évident qu'elle surveille avec un appétit tout particulier ce qui se passe ici.
Pour les indépendantistes, la question chinoise est un épouvantail agité par les loyalistes. Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, défend une indépendance association avec la France.
Je monte la Chine, c'est pour que vous ne voyez pas que le requin, il est déjà ici, qui s'appelle la France. C'est pas plus compliqué que ça. On choisira le partenaire France, privilégié, puisqu'on a une culture commune de 160 ans. Mais ce ne sera pas dans le cadre là que la France veut nous imposer.
Le nickel est ici un enjeu plus politique qu'économique, regrette Karl Terbi, PDG de la SMSP. La société minière du Sud Pacifique, très endettée et ses 2600 emplois directs, gère l'usine du Nord en terrain indépendantiste. Il faut être pragmatique. La Chine, avec qui le groupe est en train de négocier de gros contrats, capte 70% du marché du nickel. C'est un partenaire incontournable.
À travers ce partenariat, c'est pas des Chinois qui viennent prendre des actions dans des sociétés calédoniennes. C'est la société SMSP, société calédonienne, qui va récupérer 51% d'une usine en Chine en l'échange d'un accord commercial de fourniture de minerais pendant 25 ans. Et il n'y a pas de clause cachée comme on peut voir avec d'autres pays. Si on n'est pas capable de rembourser, ils vont venir prendre nos mines. Non, il n'y a pas de clause cachée qui nous mettrait en risque sur une invasion des Chinois dans les mines de la SMSP.
Les contrats devraient être signés au printemps prochain.
Et à 13h50, on reparle de la Nouvelle-Calédonie dans le vif de l'histoire avant le référendum de dimanche. Il s'est montré le week-end dernier un perdant loyal. Xavier Bertrand va-t-il tout faire pour aider Valérie Pécresse à entrer à l'Élysée? C'est l'une des questions du jour, alors que la candidate de droite à la présidentielle est sur les terres du président des Hauts-de-France, Lille et ses environs, aux côtés de Xavier Bertrand, souvent qualifié de gaulliste social. C'est aussi l'occasion d'envoyer quelques messages à d'autres électorats que celui d'Éric Ciotti. Reportage France Inter, Anne Souhaitement.
Xavier, on l'a perdu?
Ne pas se quitter d'une semelle. Après un petit déjeuner en tête-à-tête, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont venus parler industrie, travail dans la banlieue de Lille.
Pourquoi vous avez choisi le Nord alors? Parce qu'il y avait un bon président de région?
Après une campagne très régalienne, Valérie Pécresse veut se servir de Xavier Bertrand pour ressusciter la fracture sociale de Jacques Chirac.
Ce que j'aime particulièrement chez Xavier, c'est qu'il a été le premier à nous alerter, à mettre sur le devant de la scène politique la question des fractures. Cette société française qui s'abstient, cette société française des ronds-points, cette société française pour qui la fin du mois commence pas le 30, mais le 10. Et c'est aussi à cette société française, à ce peuple de France, que je veux parler dans cette campagne.
Et Valérie Pécresse pourra compter sur Xavier Bertrand. Pas question de jouer le bras de fer comme Éric Ciotti en début de semaine.
Tout le monde connaît mon ADN. À la fois l'autorité et la question, bien évidemment, des classes moyennes. L'escalier social, la valeur travail, c'est mon ADN depuis des années et des années. Maintenant, vous savez, il y a une vainqueur du Congrès. C'est Valérie Pécresse et personne d'autre.
Xavier Bertrand qui a fait passer le message à ses troupes, tous à 300% derrière Valérie Pécresse. Certains de ses proches devraient même intégrer l'organigramme de campagne.
Hier, 2 840 000 téléspectateurs ont regardé Éric Zemmour dans l'émission politique de France 2, qui fait sa meilleure audience depuis novembre 2018. À gauche, l'unité pour la présidentielle est-elle définitivement enterrée? Arnaud Montebourg, prêt à se retirer au nom de l'Union, continue de plaider pour un projet commun. Il dit vouloir rappeler Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot aujourd'hui.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
C'est une photographie précieuse, prise tous les 10 ans seulement. Elle raconte l'évolution de nos paysages, d'une part importante de notre économie et de notre alimentation aussi. Les résultats du dernier recensement agricole sont rendus publics aujourd'hui. Bonjour Kathleen Comte.
Bonjour.
Nous allons nous arrêter un peu longuement avec vous sur ces enseignements parce qu'ils sont très riches. Le nombre d'exploitants agricoles diminue, un peu plus de 600 000 il y a 10 ans, un peu moins de 500 000 aujourd'hui. Et Kathleen, la France a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. La tendance se poursuit depuis les années 70.
Et oui, cette baisse ne date pas d'hier. D'après les chiffres du recensement, ça fait 50 ans que le nombre d'exploitations diminue en France. En 1970, on en comptait environ 1,5 million. Il y a 10 ans, en 2010, elles étaient un peu moins de 500 000. Aujourd'hui, elles sont 390 000. C'est donc une baisse de 20% en 10 ans. Toutefois, la part de la surface agricole, elle, ne bouge pas. Les agriculteurs cultivent toujours environ la moitié des terres du pays, soit 27 millions d'hectares. Mais puisque les agriculteurs sont moins nombreux, est-ce que la taille des exploitations françaises a augmenté? Oui, répond le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, mais dans des proportions qu'il juge raisonnables.
La taille des exploitations agricoles augmente, et elle augmente un petit peu. Mais cette taille, elle reste à taille humaine. C'est en moyenne 69 hectares. C'est trois fois moins que ce qu'on observe aux États-Unis, par exemple. C'est à peu près dans la même épure que ce qui se passe en Allemagne. Ce sont des exploitations à taille humaine.
69 hectares aujourd'hui, soit 27 hectares de plus qu'il y a 20 ans. À noter que plus de la moitié des exploitations en France sont ce qu'on appelle des micro et des petites exploitations qui font moins de 50 hectares en moyenne.
Et que cultive-t-on en France, Kathleen ?
Eh bien là aussi, il y a du changement avec une baisse importante des exploitations d'élevage, moins 30% en 10 ans, toutes filières confondues, que ce soit les éleveurs de bœuf, de mouton, de porc ou encore de volaille. En revanche, les exploitations végétales, elles, augmentent. En 2020, plus de la moitié des exploitations sont spécialisées en production végétale. Elles étaient 45% en 2010. On note toutefois une baisse parmi les viticulteurs et les arboriculteurs. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les horticulteurs et les exploitants maraîchers, ceux qui cultivent les fruits, les légumes, les fleurs et les arbres fruitiers.
Et puis, augmentation du bio.
Oui, tout à fait. La part du bio n'a pas cessé d'augmenter. En 10 ans, la part des exploitations en agriculture biologique a triplé, passant de 4 à 12%. En France, il y a désormais près de 50 000 exploitants bio, une tendance qui s'est surtout renforcée ces 5 dernières années et que le gouvernement veut continuer d'encourager.
Intéressons-nous aux agriculteurs à présent qui sont de plus en plus âgés.
Et oui, d'après le recensement, les agriculteurs de plus de 60 ans sont plus nombreux aujourd'hui. Ils représentent 25% des exploitants contre 20% il y a 10 ans. Des chiffres qui montrent un vieillissement certain de la population agricole. Mais le ministre de l'Agriculture se veut rassurant. Pour lui, le secteur est toujours attractif.
Ce qu'on constate, c'est que nous avons un grand nombre d'agriculteurs qui sont partis récemment à la retraite ou qui vont partir à la retraite. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que le monde agricole reste profondément attractif et dynamique. Les jeunes qui s'installent sont à un nombre qui reste stable ces dernières années.
Il est vrai qu'en 10 ans, le nombre d'exploitants agricoles de moins de 50 ans n'a pas beaucoup bougé. En 2010, ils étaient 49% contre 42% aujourd'hui. La part des trentenaires est d'ailleurs restée la même. Mais Julien de Normandie le sait, il faut continuer à attirer les jeunes générations. Environ 14 000 nouveaux agriculteurs s'installent chaque année en France. Le ministre aimerait qu'il y en ait 20 000 et parmi eux des femmes. En 10 ans, le nombre d'exploitantes agricoles n'a pas bougé, toujours autour de 27%.
Et les inscriptions dans les lycées agricoles sont en hausse. Merci Kathleen Comte. Il y a un peu plus de 15 jours, le Parlement européen a voté la réforme de la PAC, politique agricole commune, censée dans les années à venir favoriser les exploitations plus petites et plus vertes. Mais l'Europe aujourd'hui, c'est le nouveau chancelier à Paris, Olaf Scholz. C'est donc à la France qu'il réserve sa première visite officielle à l'étranger. Il voit Emmanuel Macron, alors que la France s'apprête à prendre la présidence tournante de l'Union. Dans sa conférence de presse hier, le chef de l'État a présenté les trois mots-clés de ce semestre de présidence. Relance, puissance et appartenance. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Bruno.
Vous êtes en direct de l'Élysée où le chancelier est arrivé.
Et oui, une arrivée à midi sous un ciel changeant entre deux averses, mais pour ce qui s'annonce comme une nouvelle lune de miel entre Paris et Berlin. Olaf Scholz, qu'Emmanuel Macron est descendu accueillir à la sortie de sa berline, tchèque, Pas de poignée de main, Covid oblige, mais le sourire se devine derrière le masque du chancelier et le désir de travailler ensemble. Et bien là, on sait cette coalition ambitieuse sur l'Europe. Le programme de gouvernement porte une dynamique qui a parfois manqué lors des années Merkel et des mots qui résonnent agréablement aux oreilles de l'Élysée. On y parle souveraineté européenne, le couple franco-allemand partage des priorités, la transition énergétique, la régulation des géants du numérique, l'autonomie stratégique européenne, avec une volonté commune et nouvelle, il faut bien le dire, de répondre aux défis que posent les ambitions de la Chine et de la Russie. Mais Bruno, vous le savez, le diable se cache souvent dans les détails. Et par exemple, sur le climat, la question du nucléaire, de la taxe carbone pourrait nous diviser. Derrière le concept de souveraineté stratégique, la France parle plutôt défense, l'Allemagne plutôt politique industrielle. Sur l'immigration, considérée comme une chance outre-Rhin, là encore, les visions divergent. Sur l'économie, bien sûr, l'orthodoxie reste d'actualité en Allemagne. Bref, de quoi animer ce premier déjeuner à l'Élysée.
Marie-Pierre Vérot avec Martin Troadec pour France Inter à l'Élysée. Et parmi les points de divergence du nouveau couple franco-allemand en train de se constituer, le nucléaire en effet est l'une des questions clés en ce moment entre la France en particulier et ses partenaires européens. C'est le nucléaire doit-il être intégré dans la taxonomie européenne. Alors en termes plus clairs, le nucléaire doit-il être considéré comme un investissement vert? Oui, dit la France. Nein, dit l'Allemagne, Sandy Dauphin.
Depuis des mois, le ministre de l'économie Bruno Le Maire défend à Bruxelles l'idée qu'il faut intégrer le nucléaire dans la taxonomie européenne, la classification qui définit les activités et investissements considérés comme verts, au motif que l'atome est une énergie bas carbone et donc vertueuse pour le climat. L'Allemagne, qui est sortie du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, est contre. Les ONG de défense de l'environnement aussi sont vent debout contre la position française qui risque même de bloquer les négociations européennes d'après Nel Makarov du réseau Action Climat.
La présidence française ne doit pas être une tribune aux intérêts de l'industrie nucléaire. L'offensive française sur le nucléaire dans la taxonomie européenne crée énormément de divisions en Europe. Le vrai risque de cela, c'est que, in fine, les partenaires de la France à l'échelle européenne voient la présidence française plutôt comme un cheval de Troie pour les intérêts français, plutôt que comme un moyen de trouver des compromis en Europe sur les grands dossiers climat.
Bruxelles doit rendre ses derniers arbitrages sur l'intégration du nucléaire, mais aussi du gaz dans la taxonomie européenne dans les jours qui viennent, ce qui leur permettrait d'obtenir des financements européens au nom de la transition écologique.
Ce n'est pas la décision définitive, mais c'est une étape importante. La Haute Cour de justice britannique approuve l'extradition aux États-Unis de Julian Assange, le lanceur d'alerte fondateur de Wikileaks. Des milliers de documents sur l'action de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Les États-Unis veulent le juger pour espionnage. Un nouvel appel de la part des avocats de Julian Assange est encore possible. La France et la Grande-Bretagne vont-ils passer aux lettres d'avocat dans l'affaire des licences de pêche? L'Union européenne et le Royaume-Uni disent vouloir conclure les négociations aujourd'hui. S'il n'y a pas de progrès, on passera au contentieux, disent les représentants français. Une région supplémentaire passe en plan blanc pour tous les hôpitaux. C'est les Hauts-de-France. 56 000 nouveaux malades du Covid hier en France. Plus de 2500 personnes en soins critiques. On est à la moitié de la capacité d'accueil théorique des soins intensifs qui peut évidemment être étendue. Le plan blanc sera probablement national dans les jours à venir, disait hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ministre qui était ce matin à Lille, ville décidément très courue en cette fin de semaine. Il était auprès des pharmaciens. Vous savez que les pharmacies sont autorisées à ouvrir le dimanche en décembre et en janvier et que beaucoup sont réticents. Mais le ministre avait ce matin la tendance positive attitude, Maxence Lambrecq.
300 tests, des dizaines de vaccinations par jour dans cette pharmacie face à la gare. La file d'attente s'étend jusqu'à la brasserie d'à côté.
Vous êtes extraordinaire. Voilà. Depuis le début de la crise, depuis le premier jour, je le dis sans cesse.
C'est bien de l'entendre parce qu'on a vraiment besoin de soutien.
Ah non, mais vous êtes extraordinaire. J'ai conscience de l'effort.
L'effort, c'est 7 jours sur 7 ici. Et le ministre aimerait que ce soit ainsi partout. Sauf que beaucoup n'ont pas les bras pour ouvrir le dimanche.
Le contexte est difficile pour les équipes. Le moral des clients n'est pas bon non plus.
Face à ce pharmacien, Olivier Véran se veut rassurant.
La dynamique épidémique n'est plus aussi violente que ce qu'elle était la semaine dernière, qu'il y a 2 semaines et qu'il y a 3 semaines, et qu'on se rapproche sans doute du pic de cette épidémie.
On se rapproche sans doute du pic, et côté vaccination, ça va plus vite que prévu.
Je vais nous fixer un objectif collectif qui est d'arriver à 20 millions de rappels d'ici Noël dans notre pays. 20 millions de rappels, ce qui représente un véritable exploit. Ça veut dire continuer d'être à 500, 600, 700 000 vaccinations de rappels par jour.
Nouvelle ambition, sans dérogation pour les plus de 65 ans qui n'ont pas encore fait leur rappel. 10% d'entre eux, selon lui, leur passe sanitaire sera bien désactivé le 15 décembre, mercredi prochain.
Les plus de 65 ans peuvent bénéficier de leur rappel depuis plusieurs mois.
Traduisez, ils n'avaient qu'à s'en préoccuper plus tôt. Le ministre refuse tout aménagement et promet un peu plus d'argent pour les étudiants qui vaccineront pendant les fêtes. Lille, Maxence Lambrec, France Inter.
À l'approche de Noël, la SNCF annonce qu'elle va multiplier les contrôles de passes sanitaires en gare. Un effet étonnant de l'épidémie à présent à Barneville-Carteret dans la Manche. Cela raconte aussi le manque de médecins. Quand le docteur est malade, qui peut soigner les gens? Personne. Le centre médical de la commune n'a plus de généralistes, tous covidés. 5000 patients se retrouvent sans médecin. Benoît Martin, France Bleu Cotentin.
Oui, dans le bourg, c'est le sujet de conversation du moment.
Ça, c'est une bonne blague. Hein.
Cette patiente privée de médecin préfère en rire qu'en pleurer, mais la colère n'est pas loin.
C'est inadmissible qu'on ferme un centre médical dans une région comme ici, où on n'a plus de médecin et personne ne veut nous le prendre.
Moi, personnellement, j'avais un rendez-vous hier et là, c'est reporté au 29 décembre, si tout va bien.
Comme Pierre, si ce n'est pas une urgence, les patients n'ont plus qu'à attendre et à se débrouiller à la pharmacie.
Je suis obligé de prendre des médicaments sans ordonnance. C'est bien embêtant tout ça.
Embêtant et agaçant. Pour la première adjointe au maire, Annie Poisson.
Ça me dérange un petit peu qu'il n'y ait pas eu de communication, au moins de la part des médecins. Ils soignent des gens qui, oui, ont le Covid, ils l'ont attrapé malgré les gestes barrières, ça arrive, hein, donc voilà. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout eu d'informations.
La mairie de Barneville-Carteret n'a pas de solution et déplore cette situation. Les cabinets médicaux alentours déjà pleins ne prennent pas les patients de la commune, condamnés jusqu'au retour de leur médecin à se rendre à Cherbourg, chez SOS Médecins, aux urgences de l'hôpital.
En Allemagne, on passe à l'obligation vaccinale pour les soignants. La loi a été adoptée ce matin et les députés au Bundestag devraient débattre d'ici à la fin de l'année d'une obligation vaccinale tout court. À propos de l'Allemagne, ce chiffre, à l'instant, l'inflation en novembre, 5,2%. C'est le plus haut niveau depuis 1992. Notre rendez-vous à présent avec le procès du 13 novembre, chaque vendredi dans le 13-14. Arrêt sur audience, récit de la semaine, les événements principaux, les coulisses. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Bruno.
C'est avec vous Sophie cette semaine en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité avec Hélène Langlois à Paris. Alors une fois n'est pas coutume, commençons par la coulisse. En pleine cinquième vague de Covid, le président a rappelé tout le monde à l'ordre cette semaine Sophie.
Oui, exactement. C'est vrai qu'on a senti cette semaine le président Jean-Louis Périès qui était inquiet. Il prend les précautions sanitaires nécessaires face à la cinquième vague. Il a rappelé à l'ordre les avocats dès qu'ils baissaient leur masque, même le temps d'une question, alors que c'était possible avant. Il a aussi demandé aux accusés de s'éloigner les uns des autres dans le box sur le banc, ce qui était possible cette semaine parce que vous savez qu'il manquait encore à l'appel plusieurs accusés. Enfin, on sent le président Périès inquiet avec sa pointe d'humour. Et bien, il a dit, je voudrais éviter le cluster après 3 mois de procès. Ce serait ballot. Et lui-même, on l'a vu souvent rajuster son masque noir au-dessus de sa robe rouge avec son hermine.
Allez, venons-en au procès proprement dit. Et les grands chapitres, entre guillemets, s'enchaînent au fil des semaines. Il y a eu les examens de personnalité, les témoignages des victimes. Et ces derniers jours, les témoignages des enquêteurs belges. Ce volet-là s'est clos cette semaine, Sophie.
Oui, on a entendu cette semaine les derniers enquêteurs belges. Alors vous savez qu'ils étaient toujours en visio, hein, on les a vus dans un écran, visage à demi caché par un masque, ils étaient toujours cachés derrière des numéros. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des accusés qui ont continué à ne pas vouloir venir dans le box. Et les enquêteurs, eh bien, comme la semaine dernière, ont continué à avoir des réponses, je dirais, très floues, très très vagues, même des non-réponses. Et moi, j'ai été vraiment frappée par les questions précises, pointues, à la fois des magistrats de la cour, à la fois des magistrats du parquet national antiterroriste et les enquêteurs qui répondaient à côté. Il y en a un, je dois dire, qui a particulièrement choqué dans la salle d'audience en annonçant un texte. En fait, il détachait chaque syllabe comme s'il découvrait son texte. Il avait aucune réponse sur le parcours de Salah Abdeslam jusqu'à l'été 2015. Pour l'instant, on s'est arrêté à cette période. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de sentiment de malaise et beaucoup de parties civiles un peu contrariées par ces enquêteurs belges, globalement.
Je parlais du planning, les chapitres qui s'enchaînent, le planning est bien suivi ou on a pris du retard ?
Alors, on a pris un peu de retard, on est en train de le rattraper. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'ex-patron de la DGSI, qui n'avait pas pu être entendu un soir parce qu'il était trop tard, eh bien, il vient la semaine prochaine. Donc, globalement, il n'y a pas tellement de retard, même si à l'heure où je vous parle, eh bien, l'audience n'a pas encore commencé. Elle a un peu de retard aujourd'hui.
Et hier, s'est ouvert une nouvelle page, Sophie, avec les témoignages, cette fois des familles de terroristes.
Oui, les familles de ceux qui sont morts le 13 novembre ou juste après dans les assauts de la police. C'est le premier qu'on a entendu, en visio aussi. C'était Yassine Abaoud, petit frère d'Abdelhamid Abaoud, coordonnateur des attentats et membre du commando des terrasses. Et on a vu Yassine Abaoud sur la défensive, étudiant, suite capuche blanc, qui avait du mal, lui aussi, à répondre à la cour. Il a dit, c'était assez étonnant que son frère était un sacré personnage. Il n'a pas condamné les actes de son frère. Et il y a eu un seul moment, finalement, où il est apparu ému en disant que sa famille était brisée depuis que le grand frère Abdelhamid avait emmené aussi en Syrie le plus jeune des frères, Younes, 13 ans. Mais c'était encore une fois un témoignage un peu étrange, en fait, de ce premier membre de famille des terroristes qu'on a entendu devant la cour.
Alors vous nous disiez que l'audience du jour n'a pas commencé. On attend le père d'un des terroristes devant la cour d'assises spéciale.
On attend Hasdine Amimour, qu'on a vu arriver tout à l'heure là dans la salle des pas perdus avec un bonnet engoncé sur ses cheveux gris. Lui, il est le père d'un des terroristes du Bataclan. Lui, il a fermement condamné les actes de son enfant publiquement déjà. Il s'est même lié d'amitié avec le père d'une victime du Bataclan. Donc, il va s'exprimer à la barre. Il y a aussi sa plus jeune fille qui va venir, qui a, elle, un profil différent. Elle avait été mise en examen parce qu'elle avait aidé en Syrie en Syrie la fiancée de son frère Sami Amimour. Et puis, il y a un autre membre d'une famille qui est attendue probablement d'ici ce soir ici au Palais de Justice de Paris.
Sophie Parmentier, en direct de ce palais de justice de l'île de la Cité avec Hélène Langlois. On retrouve demain, Sophie, sur franceinter.fr et les réseaux sociaux, votre récit en version vidéo. La garde à vue de Yannick Agnel, le double champion olympique de natation, est prolongée. Yannick Agnel accusé, soupçonné de viol et agression sexuelle sur mineurs. Netflix, Disney+, et autres Amazon ou Apple, les grandes plateformes étrangères de vidéos à la demande, vont financer, elles aussi, la création française. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Elles viennent de trouver un accord avec le CSA. Elles devront consacrer 20 à 25% de leur chiffre d'affaires en France au financement de séries, de spectacles ou de films.
Oui, ces plateformes qui ne sont pas basées en France intègrent désormais le système français de financement de la création. C'était une obligation légale depuis 2020, mais il a fallu, et ça a pris du temps, que tous les acteurs du secteur s'entendent sur les modalités. Les plateformes devront donc verser au minimum 20% de leur chiffre d'affaires français, montant qui ira essentiellement à 80% à la production audiovisuelle, c'est-à-dire les séries, les fictions ou les captations de spectacles. Le reste ira au cinéma. Au total, cela devrait représenter 250 à 300 millions d'euros par an pour la production française à partir de l'année prochaine, moitié moins en 2021 puisque le décret n'a été publié qu'en juillet dernier.
Et cet accord tombe une semaine après un autre entre Canal+ et les représentants du cinéma français. Est-ce à dire, Julien, que la nouvelle règle de la chronologie des médias, quand et sur quel support on peut voir un film après sa sortie, est-ce que cette chronologie est plus claire?
Alors elle fait encore l'objet de négociations car ce sont des accords à part qui sont renouvelés tous les 3 ans. Les parties ont jusqu'au 10 février prochain pour s'entendre, mais ce vers quoi on se dirige avec la signature des conventions avec les plateformes, c'est une diffusion des films 6 mois après leur sortie sur les chaînes payantes comme Canal+ et OCS, et 15 mois après la sortie en salle sur les plateformes de streaming contre 3 ans aujourd'hui. Reste un problème majeur à régler, la diffusion sur les chaînes de télé gratuites qui aujourd'hui est possible après 22 mois. Autrement dit, Netflix et les autres passeraient devant la télé gratuite. TF1 a fait savoir hier qu'elle était prête à remettre en cause une partie de ses engagements si elle ne conservait pas une fenêtre d'exclusivité.
Je vous parlais tout à l'heure de l'Union de la Gauche. Dernière information, cette mi-journée, Arnaud Montebourg a appelé Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon ce matin. Personne n'a répondu. Il a filmé les séquences et a mis ça sur les réseaux sociaux. Le meilleur joueur de rugby au monde cette année est français. Le demi de mêlée de Toulouse et des Bleus, Antoine Dupont, va se voir décerner ce titre dans les minutes à venir par la Fédération internationale World Rugby. Vincent Pellegrini, c'est vrai qu'Antoine Dupont a accompli une saison canon avec ses deux équipes.
Au mois de juin, il a décroché un deuxième titre de champion de France. Un mois plus tôt, il avait conquis un premier titre de champion d'Europe. Dans une équipe toulousaine souveraine, Antoine Dupont a brillé tout au long d'une saison où il a pris une nouvelle dimension. En club, mais aussi au sein d'un 15 de France en plein renouveau, des Bleus qui ont conclu leur année par un succès retentissant face aux All Blacks néo-zélandais. Antoine Dupont est toujours aussi rapide, explosif, capable de percer les défenses, de créer des brèches, mais il a progressé notamment dans la gestion des matchs et dans son jeu au pied. Actuel entraîneur de Bordeaux-Bègles, Christophe Furios a fait débuter Antoine Dupont quand il avait à peine 18 ans avec le Castres Olympique. Il n'est pas surpris de voir son ancien joueur à un tel niveau de performance.
C'est un joueur qui est talentueux, qui est costaud, qui est physique. Il avait 18 ans quand je l'ai connu, mais c'était pas compliqué de se dire qu'il avait du potentiel. Il sait tout faire sur un terrain, il est très, très bon, mais ce qui fait la différence, c'est son humilité. créativité, sa capacité à travailler pour progresser et être le meilleur.
Antoine Dupont est le troisième joueur français à recevoir ce titre de meilleur joueur de l'année après Fabien Galthié en 2002 et Thierry Dussautoir il y a 10 ans.
Et à partir de demain, avec ses coéquipiers toulousains, il défendra le titre de champion d'Europe acquis au printemps. Premier match à Cardiff, Pays de Galles. Dans un instant, la météo, alors qu'il pleut toujours sur les Pyrénées-Atlantiques. Un peu moins, cela dit, vient de me dire Élodie Calac.
Mon maître et mon vainqueur. Vasco se consume pour la flamboyante Tina. Tina aime Vasco. Vasco jalouse l'insipide fiancé de Tina. Un trio amoureux, explosif, au cœur d'une tragicomédie romantique follement drôle et pétillante, où passion et raison s'affrontent dans un duel jubilatoire. Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable est un roman d'amour brillant et virevoltant, couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable, un livre Gallimard.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras ?
Bah tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi ?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Occitanie.
Le temps de ce jour.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Débordement de cours d'eau dans les Pyrénées-Atlantiques. Élodie Calac, 11 départements sont toujours en vigilance orange.
Oui, 11 départements près des Pyrénées et du côté des Alpes. Alors on commence par les Pyrénées, on a des pluies qui persistent. Elles vont être parfois encore soutenues cet après-midi et cette nuit. Elles commenceront à faiblir à nouveau demain en cours de matinée. La vigilance orange est maintenue donc pour pluie et crue. Il est tombé jusqu'à un mois de pluie en 24 heures sur les Pyrénées-Atlantiques. Les niveaux des cours d'eau sont très élevés, des crues importantes et des inondations sont en cours. Soyez vraiment prudents. Sur les Pyrénées, vigilance orange avalanche également. Le risque reste très fort. La neige s'abaisse vers 1200 mètres. Près de la frontière belge et sur le flanc est, là, ça reste perturbé. Les pluies persistent. La neige remonte progressivement vers 600 mètres, mais elle persiste à basse altitude dans les vallées alpines. Attention aux avalanches sur le nord des Alpes. Une vigilance orange est en cours. Les quantités de neige sont importantes. Et puis ailleurs, c'est quand même plus variable avec des averses, du vent, des éclaircies plus belles sur le nord-ouest, le bassin parisien et Poitou-Charentes. Ah. De même que vers la basse vallée du Rhône et la Côte d'Azur. Et pour les températures, 5 à 9 degrés, 9 à 14 de l'océan à la Méditerranée.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Allez-vous regarder Miss France demain soir à la télévision ? La cérémonie est toujours aussi populaire. C'était son centenaire l'année dernière. 10 millions de téléspectateurs l'ont suivie. Elle est aussi de plus en plus critiquée à l'heure de MeToo. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos interventions au standard. On dialogue dans un instant avec Camille Couvry qui est sociologue à l'université de Rouen et qui a écrit une thèse sur les élections régionales de Miss et tout ce qu'elle raconte. C'est passionnant. Mais d'abord, coup de fil à Ursula Le Maine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole d'Oser le féminisme. Que reprochez-vous au concours de Miss France ?
Alors, on a intenté une action contre Miss France d'une part d'un point de vue juridique, ouais, puisqu'on reproche à Miss France de ne pas établir un contrat de travail entre les participantes à l'émission, celles qui en fait sont les meneuses de revue, selon les propres termes d'Endemol lors de cette soirée. Alors même si la jurisprudence le demande depuis 2013 concernant Mister France. Donc le raisonnement est le même pour Mister France que pour Miss France. Et une fois qu'on a établi qu'il y a un lien de travail et donc un contrat de travail, on reproche à la société Miss France et à Endemol de pratiquer des discriminations à l'embauche, ce qui est illégal en France. Donc que ça soit sur la taille, l'âge, le fait d'être marié ou pas, d'avoir des enfants ou pas, ces critères-là, ils sont illégaux.
Alors ça, c'est pour l'aspect juridique. Sur ce que ça dit du regard que l'on porte sur les femmes, qu'en dites-vous de ces cérémonies ?
Alors ce qu'on reproche effectivement sur le point de vue politique et à Miss France, c'est d'être une émission, un concours sexiste qui continue à faire véhiculer cette image complètement rétrograde en fait de la jeune fille bonne à marier. Et on le voit en fait à travers les critères qui sont demandés, de ne pas être mariée, de ne même jamais avoir été mariée. Donc on ne peut pas être veuve par exemple, ne jamais avoir eu d'enfant. Tout ça c'est vraiment une espèce de figuration de cette figure de la jeune vierge et à travers l'âge également aussi. Et donc c'est une figure qui est extrêmement rétrograde et archaïque.
Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Miss France, dit les polémiques sur le sexisme dans Miss France sont le fait d'un petit groupe de néo-féministes qui portent un regard condescendant sur un programme convivial et populaire. Qu'en dites-vous ?
Alors c'est intéressant qu'elle reprenne cette nomenclature de néo-féministe, qui est un mot qui est souvent utilisé par notamment les antiféministes et les antiféministes comme Zemmour par exemple ou d'autres pour qualifier les féministes d'aujourd'hui. Donc ça veut dire néo, c'est nouveau, nouvelle féministe. Mmh. Pourtant en fait on remarque que depuis très longtemps les féministes critiquent les concours de beauté depuis les années 70-80. Donc il n'y a rien de nouveau en fait dans ces revendications. L'analyse féministe elle a toujours été de dire que ces concours-là sont sexistes.
Merci Ursula Le Menn, porte-parole d'Oser le Féminisme, d'avoir pris quelques minutes avec vous. Et bonjour Camille Couvry.
Bonjour.
Sociologue à l'Université de Rouen, autrice donc de cette thèse sur les élections régionales de Miss. Et vous avez plein de choses passionnantes à raconter sur ces concours en France et même ailleurs. D'abord, poser le constat, Camille Couvry, ça reste Miss France une cérémonie très populaire.
Alors oui, d'une certaine manière, c'est une cérémonie qui reste populaire, mais au sens peut-être qui est pas celui que l'on a en tête en France, pas tout à fait. C'est une cérémonie populaire, mais au sens aussi de grand public.
Oui.
Notamment, donc voilà, il y a cette petite complexité en fait de cette pratique qui est à la fois associée au milieu populaire dans les esprits, ce qui recoupe pas exactement la réalité.
Moi j'entendais populaire grand public sur les 10 millions de personnes qui étaient devant l'année dernière, j'entendais dans le sens grand public.
Ah voilà, eh ben oui, tout à fait.
Et
effectivement, il y a toute une... Oui.
Pardon, posons autre chose, la notion du principe démocratique au fond dans les cérémonies de Miss France, c'est le public qui vote, donc il y a ce côté voilà grand public et qui s'exprime en plus.
Oui, eh bien... Effectivement, si on regarde en fait l'évolution des concours, des élections de Miss, depuis leur début, oui. Au début du XXe, même si on trouve des formes de couronnement antérieures aux élections de Miss, ce qu'on observe en fait, c'est une évolution des principes de fonctionnement qui suivent finalement les conceptions, les valeurs de la société dans laquelle ils sont organisés, et finalement ce principe démocratique. Reflète finalement une aspiration aussi plus générale, sociétale à faire valoir ce principe-là en fait.
Oui. Alors il y a
et
beaucoup
aussi, ça participe finalement à rendre ce phénomène malgré son caractère a priori archaïque, malgré son caractère a priori sexiste, malgré ça participe finalement de son succès, parce qu'en fait les concours ont quand même une forte capacité à s'adapter à leur époque malgré tout.
Et on va voir comment les différents concours s'adaptent. Marie d'abord au standard, bonjour Marie.
Bonjour.
Vous nous appelez de Nîmes, nous vous écoutons.
Oui, alors voilà, moi je m'appelle Marie et j'ai 65 ans et bien sûr je suis au courant de cette manifestation depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, déjà ça me choquait. J'étais très très jolie, mais jamais jamais de la vie je serais allée me présenter à ce genre de concours. Je trouve que c'est une véritable foire aux bestiaux. Et que c'est pas la peine de se battre aujourd'hui pour l'égalité des femmes et des hommes si on continue avec de telles manifestations aussi dégradantes. Voilà, il y a d'autres moyens de se réaliser, de réaliser ses rêves quand on est une femme aujourd'hui.
Camille Couvry, les critères dont nous parlait Ursula Le Menn à l'instant, alors 1m70 au moins, pas marié, il y a aussi ne pas fumer, ne pas être trop tatoué, pas de piercing, c'est quoi ? C'est une recherche de pureté, voilà, d'image de la femme qui touche à la pureté.
Oui, alors effectivement, il y a énormément de choses à dire sur ces prescriptions qui sont plus ou moins formelles ou informelles dans les concours et qui peuvent d'ailleurs varier en fonction des échelons, en fonction des organisations, en fonction des organisateurs d'ailleurs, des personnes qui sont dans les organisations et qui fixent les règlements. Après, c'est sûr que ce qu'on retrouve au niveau de l'élection de Miss France se retrouve à plus ou moins, avec plus ou moins de similitudes dans les autres élections. Et effectivement, bah, ça raconte un certain nombre de choses sur les normes sociales et la manière dont on va effectivement transmettre, véhiculer un certain nombre de normes qui sont socialement situées, qui sont extrêmement genrées et qui participent à construire l'image et l'imaginaire autour de Miss France et qui sont aussi liées à des attentes qu'on pourrait en fait retrouver dans d'autres espaces. Voilà, il n'y a pas qu'à Miss France que quand on est en situation de représentation, on ne fume pas, ou que quand on est en représentation, on n'est pas sur son téléphone. Donc en réalité, ça dit aussi des choses, des normes et de fonctionnement qui sont vraiment opérants dans d'autres espaces aussi, même si on les retrouve de manière souvent caricaturale dans ce contexte-là.
Dans ce contexte-là. Question d'Anne qui va nous amener aux adaptations et aux évolutions. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question ?
Je pense surtout, en entendant votre émission, aux jeunes générations de femmes, donc qui peuvent s'identifier à ces jeunes Miss. Et je me pose la question, dans quelle mesure ces concours et puis surtout leur médiatisation n'incitent pas finalement à une maîtrise totale du corps des femmes, donc vers une forme de perfectionnisme qui se rapproche un petit peu de ce que peuvent promouvoir certaines influenceuses vers la chirurgie esthétique, même si je sais effectivement que normalement les Miss ne peuvent pas avoir subi d'opérations de chirurgie esthétique. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt prévoir de promouvoir les corps vers plutôt une question d'hygiène de vie, promouvoir des sportifs par exemple?
Alors comment est-ce que ces concours au niveau régional ou à l'étranger évoluent, Camille Couvry, pour répondre à toutes ces remarques?
Oui, il y a plusieurs remarques par rapport à ce que disait l'interlocutrice. C'est sûr, enfin, c'est vrai que c'est souvent effectivement le type de remarque qui vient à l'esprit. Et ce qui est sûr, c'est que les élections de Miss, elles s'inscrivent de toute manière dans un contexte sociétal où il y a cette importance accordée à l'apparence, à la beauté, qui pèse notamment particulièrement sur les femmes, et ça s'inscrit dans un lot de propositions qui va de Miss France au mannequinat, à la télé-réalité, aux influenceurs. On n'a pas que Miss France dans ce paysage-là, et c'est vrai que effectivement à ce titre-là. Il y a des choses qui peuvent paraître très contraignantes, et en même temps, il y a cette capacité d'adaptation qu'on retrouve effectivement avec certains concours qui vont, par exemple, dans certaines élections indépendantes des élections de Miss France, retirer le défilé en maillot de bain, ou qui vont peut-être aller vers plus de mise en avant du discours. Bon, après, voilà, on reste toujours dans un contexte où c'est une pratique qui est portée par des initiateurs qui, par définition, en défendent le principe. Pour rebondir sur ce que disait la personne d'Oser le féminisme, c'est sûr que on arrive là avec les arguments féministes à une... Voilà, faut vraiment imaginer que les arguments viennent vraiment... amènent des questions super intéressantes qui sont pas forcément à l'esprit... Voilà, ça vient bousculer les consciences et c'est des questions, les personnes qui sont engagées dans les concours, pas toutes hein, évidemment, mais ne se posent pas toujours les questions dans ces termes-là.
Les personnes engagées dans les concours les voient parfois comme émancipateurs. On parle pas seulement de beauté, mais de présentation, de capacité à se comporter en public, à développer la confiance en soi. C'est ça aussi que l'on voit dans les concours plus indépendants.
Oui, tout à fait, oui. Oui, et ce qui est sans doute, alors j'ai pas travaillé précisément, enfin mon travail de terrain portait pas précisément sur l'élection de Miss France, mais je pense qu'on peut retrouver des logiques un petit peu similaires au niveau national, c'est les ambivalences de ce type de concours, c'est-à-dire ce que ça produit au niveau collectif, en termes de modèles, de normes contraignantes, et puis aussi en termes de contraintes individuelles, mais en même temps, qu'est-ce que ça produit au niveau subjectif? Qu'est-ce que les individus vont y mettre? Pourquoi les personnes y vont? Et si elles y vont, c'est qu'elles y trouvent finalement un intérêt et des bénéfices. Et effectivement, le concours, c'est un peu construit cette image de tremplin social, ce qui en réalité est plutôt vrai que dans de rares exceptions. Oui. Le cas c'est très très rare en fait, c'est plutôt erroné en réalité. Par contre, effectivement, c'est ce qui ressort effectivement de l'expérience, des propos rapportés par des personnes qui s'engagent dans ce type de concours. Ce sont des formes de bénéfices plus subjectifs, moins mesurables, moins objectivables, et qui expliquent sans doute pourquoi ça fonctionne. Et puis évidemment, c'est aussi rendu possible par tout un tissu associatif. de bénévoles, en fait. Donc après, ensuite, on retrouve des logiques, comme on les retrouve dans le milieu associatif, qui font que ça va plus ou moins être attractif sur un territoire ou pas.
Est-ce que la polémique, la critique féministe adressée aux Miss France est aussi forte à l'étranger qu'en France, où on est un pays où cette critique est particulièrement vive ?
Alors, je dirais que, au contraire, certains pays ont vraiment, les débats m'apparaissent, j'ai l'impression, sont plus vifs dans certains autres pays. Et au contraire, en France, les critiques ont été plutôt assez, assez mesurées et peu visibilisées, enfin, peu visibles, même s'il y en a, toujours. Et je rebondis pour compléter ce que disait la première interlocutrice d'Oser le féminisme. On trouve des critiques féministes de ce concours dès le premier concours qui s'apparente à des élections de Miss France aux États-Unis en 1900, dans les années
1921, je crois.
Dans les années 1920. Ouais. En fait. Donc, et après, dans certains contextes, dans des pays où les droits des femmes sont particulièrement difficile à défendre et où il y a beaucoup d'avancées encore à réaliser, il y a pu y avoir certaines manifestations de réprobation bien plus fortes que ce qu'on trouve
en France.
Ouais,
merci Camille Couvry d'avoir répondu à nos questions. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le premier ethnologue de Nouvelle-Calédonie.
Maurice Lénard, grand missionnaire avant d'être ethnologue.
Avant cela, le feuilleton, nos Français dans la campagne. Dernier rendez-vous aujourd'hui avec la coiffeuse Sylvana. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Ce dimanche, ce sera la journée mondiale du chant choral.
Mais oui.
Et à cette occasion, un professeur de musique qui dirige deux chorales est à votre micro. Il s'appelle Christophe Sibyl.
Il habite Châteauroux. Et avant de devenir chef de chœur, il a accompagné sur scène d'autres artistes, notamment le chanteur Idir et le duo Fonteval. Quant à ces deux chorales, elles sont en grande partie composées d'enseignants. La première s'appelle Chœur de chambre, chœur exclusivement féminin. Et l'autre, c'est la chorale de l'ESPE, l'école supérieure du professorat et de l'éducation.
Dans cette chorale, on chante surtout de la chanson française. On chante Le Forestier, on chante Souchon. C'est très présent à Angers, ça sonne bien en général, assez facilement. Donc on se fait plaisir avec relativement peu de boulot finalement. Et aussi Lavilliers, c'est un petit peu plus dur. On a eu Brassens aussi, il y a plein de chanteurs comme ça qui disent vraiment quelque chose, quoi. Les prérequis pour moi, c'est qu'il y a un texte qui raconte vraiment une histoire, quoi. Une chanson à texte.
Vous accompagnez au piano ?
J'accompagne au piano, je dirige, j'écris les arrangements, donc je fais les sandwichs, je conduis le car. Non, je plaisante. Mais enfin, c'est vrai que j'aime bien tout faire, en fait.
Sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elles, dans le soir, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou. Voir l'infortune, à quoi nos vies se résument. Pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves.
Et c'est donc une chanson d'Alain Souchon qu'a choisi Christophe Sibyl, Frédéric.
Sous les jupes des filles, qui, si l'on s'en tient au texte, semble être une ode au voyeurisme adolescent, forme d'éveil à l'érotisme. Mais notre chef de chœur en fait une toute autre analyse.
Cette chanson est très importante en ce moment parce qu'elle nous dit trois choses. D'abord, que le sexe gouverne le monde, mais ça on le sait tous. La deuxième chose, c'est que le sexe fort, c'est le sexe féminin finalement, parce que la femme est la seule à avoir un organe consacré uniquement au plaisir. Et la troisième chose, c'est que si la femme est autant opprimée par l'homme qui profite de sa seule supériorité physique, c'est par jalousie justement de cette faculté, entre autres, de pouvoir sexuellement avoir plus de plaisir que lui.
Hein. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les ballons, les bières, les Khmers rouges, le moindre chevreuil.
Souchon dit dans sa chanson, alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les Khmers rouges, le moindre cheveu qui bouge. Dans les gens dont parle Souchon qui opprime la femme, il n'y a que des hommes en fait. Les Khmers rouges, les chasseurs, il y a très peu de femmes dans ces corporations-là finalement.
Elles affièrent sur leurs escabeaux en l'air.
Donc si on résume, pour vous, Sous les jupes des filles, c'est une chanson qui dénonce l'oppression que subissent les femmes à travers la planète.
Ah, pour moi, oui, c'est comme ça vraiment que je l'entends, surtout à l'époque où les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, par exemple. Elles, dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur Terre, c'est leur robe légère, c'est vraiment une chanson féministe. Souchon, c'est tout sauf gentillet, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a une espèce de manière de dire les choses, qui est quand même très poétique, évidemment, mais très clair.
Parce que là, il a l'air de pas y toucher. On a même l'impression que c'est une petite balade.
Exactement. Il y a ça dans beaucoup de ses chansons. Hein. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tellement plaisant à arranger. On a l'impression que ça sonne assez facilement. Ça sonne bien, quoi.
Voir sous les yeux des filles.
Sous les jupes des filles, Alain Souchon, c'était donc Frédéric, le choix de Christophe Sibylle.
Professeur de musique et chef de chœur à Châteauroux.
Bon week-end.
À lundi.
Le feuilleton dernier entretien de la semaine avec l'un de nos 5 Français dans la campagne. Aujourd'hui, Sylvana. Elle a la 50aine, 4 enfants. Elle tient un salon de coiffure à Avesnes-sur-Helpe. Elle est abstentionniste depuis longtemps, s'intéresse de loin à la politique, même si Marine Le Pen, élue de sa région, trouve un peu plus grâce à ses yeux que les autres candidats. Alors, est-ce qu'elle a suivi les derniers développements de la campagne? Le mythique d'Éric Zemmour, dimanche dernier, l'action des militants antiracistes, la provocation, estime le candidat et une partie de la droite. Les militants se sont fait tabasser par des pro-Zemmour. Anne Souhaitemont a interrogé Sylvana entre deux passages de clients.
Bonjour Sylvana.
Bonjour.
Alors, comment ça va depuis la dernière fois?
Très bien.
On s'assoit pour discuter?
On s'assoit.
La dernière fois qu'on s'était vu, vous m'aviez dit « Oui, on sent que la campagne a un peu démarré, mais ça vous semblait encore lointain. » Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ces derniers jours ou ces dernières semaines?
On va dire ces derniers jours, hein, puisque on a vu un peu avec Éric Zemmour ce qui s'est passé pendant son débat.
Et pendant son meeting à Villepinte.
Oui, c'est ça. Et donc là, de voir un homme taper à coups de poing une dame, c'est très très choquant. Donc pour moi, je veux pas cette France-là, quoi.
Vous faites quoi là, Sylvana, un shampoing?
Alors non, je prépare mes serviettes à barbe puisque j'ai des messieurs qui vont arriver tout à l'heure pour retravailler leur barbe.
La dernière fois qu'on s'était vu, la droite n'avait pas encore de candidat. Il y a eu une sorte de primaire qui s'est organisée avec Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin. Est-ce que vous avez suivi les débats télé et un petit peu cette élection?
Je vous dirais que non. J'ai pas suivi par rapport à mon travail. J'ai pas eu beaucoup de temps.
C'est Valérie Pécresse qui a remporté cette primaire. C'est la première fois que la droite choisit une femme pour être candidate à la présidentielle. Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme sentiment? Vous vous dites, c'est bien, c'est intéressant, enfin
Non, je trouve que c'est pas mal, parce qu'elle peut donner quand même pas mal d'idées et défendre aussi les femmes. Ça va et toi? Ok, et pour faire quoi? Couleur? Ah non, le violet, on n'arrivera pas, ça prendra pas, on est dans le rouge.
Vous voudriez que quel thème ressorte?
La retraite. Moi, j'ai mon papa, il est décédé. Il venait juste d'être à la retraite. Il est tombé malade à 55 ans parce que il travaillait dans une usine avec du goudron. Donc franchement, travailler et même pas arriver à 65 ans, il y a des choses à, vraiment à revoir. Et je pense que c'est vraiment le plus gros sujet.
Donc si je vous suis, a priori, le programme de la droite, pour vous, c'est non.
À ce niveau-là, pour moi, c'est non.
Et la gauche? Ça vous fait rire?
La gauche,
ça vous intéresse pas?
Non. Ils ont beaucoup de bonnes idées, des très mauvaises aussi. Il faudrait prendre une idée à droite, une idée à gauche. Peut-être on arriverait à faire quelque chose de pas mal. Pour dire d'essayer de sauver cette France où les gens, en fait, c'est très très dur de boucler leur fin de mois. Et ça, franchement, il va falloir y penser sérieusement. C'est que les gens ne vont travailler pour rien avoir. À un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Marine Le Pen, elle parle de la France des oubliés. Elle en parle beaucoup, elle en a même fait un slogan. Est-ce qu'elle tape juste?
Oui, elle tape bien. À un moment donné, il faut penser au peuple.
Et ça, Marine Le Pen, vous avez l'impression qu'elle parle du peuple?
Je trouve qu'elle en parle quand même. Elle parle des Français.
Elle vous parle?
Oui, je pense qu'elle s'adresse vraiment aux Français.
Et le président Emmanuel Macron, il a toujours pas dit s'il serait candidat, s'il l'était?
Je vous dirais franchement qu'aujourd'hui, je sais même pas si je vais aller voter, quoi. On va me dire, oui, mais si tu vas pas voter, il faut pas te plaindre. Mais me plaindre de quoi? Déjà, tout le monde se plaint.
Une semaine dans leur vie, vous retrouvez tous les épisodes de la semaine et les autres sur franceinter.fr et sur les bonnes plateformes de podcast. La réalisation est signée de Lucie Lemarchand et on retrouvera nos 5 Français dans la campagne dans quelques semaines.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire à 2 jours du référendum en Nouvelle-Calédonie. Avant-goût de votre émission Intelligence Service demain, consacrée à Maurice Lénart, missionnaire hors norme dans l'archipel de Nouvelle-Calédonie, est devenu son premier grand ethnologue. Il a vécu entre 1878 et 1954.
Alors, une scène dans le métro parisien la veille du premier des 3 référendums 2018. Une dame aborde un jeune homme. Elle a reconnu en Hassan un Kanak. La dame dit qu'elle s'appelle Lénart. Quelle est la petite fille de Maurice Lénart? Comment répond Hassan? Monsieur Lénart, c'est lui qui nous a appris à revivre, à nous autres. Total respect, madame. Et peu de jours après, Hassan est invité à suivre en direct les résultats du référendum au domicile de la famille, peuplé des objets kanak que le grand-père a rapporté de 5 très longs séjours dans l'archipel.
Chez les Lénards, on est pasteur protestant de père en fils.
Alors avec un appétit pour la vie missionnaire, la routine dans une paroisse installée en métropole risque de tuer le pasteur, la vie missionnaire sauve le pasteur. En 1902, Maurice débarque donc en rade de Nouméa avec sa femme, Jeanne. Comment, lui dit le maire, vous allez chez les Kanaks, mais il n'y en aura bientôt plus. L'échec de leur révolte, 1878, les a en effet laissés désespérés. L'alcool les ravage, le code de l'indigénat les cantonne dans des réserves. Lénard va fonder une station missionnaire en Grande Terre. Il s'en éloigne parfois à cheval, en chaloupe, composant à l'extérieur une silhouette de colosse bienveillant qui va devenir familière. Mais son coup de génie est, à l'intérieur de la station, de prolonger le culte du dimanche matin par le culte des ardoises, le dimanche après-midi. C'est un atelier de traduction biblique en langue locale qu'il partage avec des apprentis pasteurs qui le forment en même temps qu'il les forme. Un mot de l'évangile est mis sur la table. Les interlocuteurs proposent toutes les transpositions possibles dans l'univers kanak. La rédemption peut ainsi prendre le visage d'un arbuste, le Naoui, qu'on plante après les combats entre tribus et qui absorbe le sang. Acculturation dans les deux sens.
Bon, d'accord, mais on est quand même dans le temps de la colonisation.
Oui, alors Lénard ne cherche pas la confrontation avec l'administration coloniale, encore moins l'expulsion. Mais chaque fois que des colons l'enjoignent de ne s'occuper que du salut des âmes, il s'exaspère. Et si les indigènes en viennent à voler des noix de coco, dit-il, je vais bien devoir considérer qu'on leur a aussi volé leurs cocoteraies.
Le militant indépendantiste Jean-Marie Tchibaou, assassiné en 89 par un Kanak opposé aux accords de Matignon, était un catholique qui a beaucoup lu et médité Lénard. Et il disait « Nous ne pouvons plus être des noix de coco flottant au fil du lagon, nous devons réenraciner nos cocotiers. »
Lénard était persuadé que ce réenracinement qu'il souhaitait en tant qu'ethnologue passait par la conversion qu'il avait préparée en tant que missionnaire. Les Kanaks parlent de camo, ce qui vit. Ce qui vit peut aussi bien être un oiseau qui vole, un poisson qui nage, un homme qui chasse, qu'un défunt qui se glisse sous la terre. Dans les grandes fêtes, les pilous, les morts dansent avec les vivants. Ce qui vit s'inscrit, continue-t-il, dans un temps mythique qui ignore l'idée même d'un avenir. Mais Jésus, poursuit Lénard, en s'inscrivant à son tour dans le vivant, ouvre un avenir. Alors, nombre de spécialistes ont évidemment critiqué cette ethnologie qui s'associe de bien près à une théologie. Mais il n'est pas sûr que les Kanaks d'aujourd'hui se soucient beaucoup de cette dispute entre spécialistes.
Ils retiennent surtout une leçon positive de Lénard.
Son vocabulaire a infusé jusque dans les accords de Matignon, initié, il est vrai, en 1988 par des protestants. L'avenir des Néo-Calédoniens, disait Lénard, est de partager un destin. Et les accords, encore ceux de Nouméa en 98, répètent ces mots « destin commun ». À Lénard, les Kanaks importaient beaucoup, néanmoins, ils ne pensaient pas qu'une communauté doive l'emporter sur une autre, c'est sa leçon.
Et donc Maurice Lénard dans Intelligence Service, demain à 18h. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
C'est jour de club, la Terre au carré.
Absolument, on parlera de foudre, de biologie et d'océan, monsieur.
À tout de suite.